Bonsoir frères et sœurs. Donc, je voulais témoigner de quelque chose qui m'est arrivé récemment. Donc, il y a quelques mois, j'ai été un peu blessé par une personne en particulier. Et sur le moment, j'ai décidé de. Je sais que la parole de Dieu nous invite à. Quand on est indifférent avec quelqu'un ou quand on a quelque chose dans son cœur, à aller voir la personne, entre vous et elle, évidemment, et vous expliquer pour effectivement revenir dans la paix. Et je n'ai pas fait ça. En bon état d'esprit, je pense que j'ai pas tenu compte du fait que j'avais été blessé pour quelque chose. Puis j'ai laissé passer. Et puis, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées, donc il y a eu d'autres choses. Donc c'est comme un dossier qui s'épaissit. Et à un tel point qu'il y a 2 semaines environ, je me suis réveillé en pleine nuit, à 2 nuits consécutives, et j'étais vraiment pas bien. Donc ça m'a même réveillé la nuit. où je ne me sentais pas du tout en paix avec la situation, donc c'était difficile. Vraiment difficile. Et j'étais décidé à aller voir la personne pour lui dire tout ce que j'avais dans le cœur, tout simplement. Et j'avais fait une liste. Alors si vous me voyez arriver une fois vers vous avec une liste, faites attention. Mais effectivement, j'avais mis une liste parce que j'avais le besoin de décharger un petit peu les choses qui me semblaient difficiles pour moi. Et voilà l'état d'esprit dans lequel j'étais. Et il se trouve que la veille, qui était la deuxième nuit où je me suis réveillé, c'était je crois le lundi. Et le mardi soir, on a eu notre réunion de prière la semaine dernière. Et on a eu notre pasteur qui a donné le message concernant l'histoire de Saül et David. Et donc pour rappel, c'est le message, alors j'espère que je le restituerai correctement, si c'est pas le cas, vous me dites. Mais en gros, ce message, il expliquait que dans la Bible, on disait Saül a tué ses 1000 et David a tué ses 10 000. Et du coup, Saül, il est devenu, donc qui était roi, il est devenu jaloux de David. Et en fait, il a développé des pensées de meurtre dans son cœur, et il n'a eu de cesse que de vouloir tuer David, en fait. Et ce message de notre pasteur, donc, il a bien expliqué d'un côté ce que Saül avait fait, comment il était, l'état d'esprit qu'il avait développé, et d'un autre côté, il a aussi parlé de David, qui lui est resté vraiment fidèle à Dieu, c'est-à-dire qu'il aurait eu l'occasion de tuer Saül, qui a cherché à le tuer, hein. Mais clairement il s'est reposé sur Dieu et il respectait Saül parce que c'était son roi. Encore une fois, j'espère que je restitue bien. Je vois Jean-Philippe, mais bon, donc c'est voilà. Je ne donne pas de leçon de théologie, mais c'est ce que j'ai retenu. Et en fait, pendant cette soirée, je voulais témoigner que Dieu, il a touché mon cœur de 2 façons. En fait, donc il m'a dit déjà. Peut-être que c'est toi qui as complètement tort, et peut-être que finalement ce que tu as développé comme blessure, tu devrais pas les avoir développées, donc c'est peut-être toi qui as un problème. Peut-être que l'autre personne a un problème, peut-être que c'est un peu des deux. Mais la première chose qui m'a touché dans le message, c'est que Saül, en fait, dans l'histoire biblique, on voit que Saül, Dieu a puni Saül. Et Saül est mort. Et donc, en fait, la Bible, notre pasteur nous a expliqué ça, que la Bible nous dit que toutes les étapes et le mauvais état d'esprit de Saül l'a amené à mourir, l'a amené à la mort. Et la première chose que ça m'a fait pendant ce message, j'ai eu une grande peur de Dieu. Ça m'a vraiment fait peur, parce que je me suis dit, là, on rigole pas. Donc, et je sais pas, et ça me parlait, je me sentais vraiment concerné. Alors, peut-être que c'était pour moi, ce message, mais en tout cas, la première chose, c'est que ça m'a fait vraiment réfléchir sur, sur effectivement les conséquences que peuvent avoir quelque chose qu'on développe dans son cœur et qui ne vient pas de Dieu. Et je me suis dit, mais si je suis dans cet état, ben je me suis pas dans la paix, donc je me sens pas bien, je me réveille dans la nuit, est-ce que ça vient de Dieu? Donc, je me suis, effectivement, ça m'a vraiment fait réfléchir, je me suis dit, bah, faut que je fasse attention quand même, parce que j'ai pas envie de finir comme ça, première chose. Et la deuxième chose, c'est que Dieu, il m'a vraiment rappelé aussi, exactement dans le même moment de ce message, ne suis-je pas le Dieu qui voit tout? Ne suis-je pas le Dieu qui est celui qui juge? Donc, est-ce que Joseph, qui a été jeté en prison, qui a été accusé d'adultère, c'est vraiment cette pensée qui m'est venue, est-ce que je ne l'ai pas rétabli parce que je vois tout et que je connais tout? Donc, du coup, ce qui était incroyable pendant cette soirée, c'est que je suis arrivé à la soirée et j'étais dans l'état que vous imaginez, j'étais pas bien, quoi. J'étais vraiment, j'avais une espèce de rancœur, j'avais tout ce dossier dans la tête, etc. Et avec ce message, c'était incroyable parce que c'est comme si j'avais Jésus à côté, que j'avais quelque chose qui me fait mal et je lui ai donné. Et en fait, c'est lui qui l'a pris. Et ça m'a déchargé complètement. Et je me suis dit, mais non, j'ai pas besoin d'aller voir la personne parce que je sais que Dieu voit tout et que bah, s'il y a quelque chose à faire, c'est lui qui le fera. Et gloire à Dieu parce que le message m'a complètement enlevé toute cette pression. Et c'est vraiment la première fois dans ma vie que je ressens ça, c'est-à-dire de vraiment confier quelque chose dans les mains du Seigneur, en se disant mais j'ai pas besoin de me faire de soucis pour ça, parce que c'est lui qui rétribue, c'est lui qui voit tout, et que s'il y a quelque chose à faire avec l'autre personne, ou pas, j'en sais rien, mais s'il y a quelque chose, c'est lui qui le fera, et c'est pas à moi de le faire. Voilà. Donc ça m'a encouragé, je voulais partager ça avec vous, parce qu'effectivement, humainement, on a toujours tendance à vouloir se faire justice, d'un point de vue charnel, c'est pas toujours facile, mais à la fin de la soirée, j'étais complètement libéré de cette chose-là, et gloire à Dieu, et je suis dans la paix, et j'ai pu, par rapport à d'autres personnes, je n'ai plus vraiment de rancœur, je suis en paix. Voilà.
Ben, bonsoir tout le monde. Du coup, à la base, j'avais pas prévu de témoigner sur ça, mais bon, Dieu connaît toutes choses, hein, comme on dit. Donc du coup, je vais vous parler de ce qui m'a rapproché de Dieu, ou du moins qui m'a poussé à la conversion. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je suis née dans une famille chrétienne, donc mes parents sont chrétiens, ils servent à l'église, mais j'avais pas encore eu ce petit truc qui me poussait vers Dieu. Donc il y a peut-être 3-4 ans, je disais à Dieu, mais est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, montre-le-moi, fais quelque chose de grand, etc. Et je voulais vraiment savoir en fait s'il existait réellement et s'il m'aimait vraiment, parce qu'on le chantait à l'église, je t'aime, mais moi je le vivais pas en fait, toutes ces paroles, je le vivais pas. Et du coup je lui ai dit, montre-moi que tu m'aimes, fais quelque chose de grandiose. Donc j'avais 14 ans, hein, la gamine qui demande ça, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais à ce moment-là des douleurs au ventre. Donc j'avais des douleurs au ventre, mais moi je me préoccupais pas trop plus de ça, et je faisais ma vie d'adolescente tout simplement. Et puis les douleurs, en fait, elles ont commencé à s'accentuer. Donc j'ai commencé à avoir mal de plus en plus souvent, et surtout au niveau du côté droit. Donc ma maman m'a emmenée chez le médecin. Rien à signaler, tout va bien. Et donc quelques mois plus tard, je rentre de l'école, et là, grosse douleur côté droit. Je comprends pas qu'est-ce qui m'arrive, j'ai mal. Et ça dure comme ça toute la nuit. Donc minuit, 1h du matin, grosse douleur, je vomis, je peux pas marcher, je peux plus rien faire. Et du coup, ma maman, elle me dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va à l'hôpital? Et moi, je sais pas, puisque j'ai mal, je veux juste que ça s'arrête, en fait. Et donc, on part à l'hôpital. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, le CHU de Guadeloupe, c'était pas trop ça. Donc, on arrive à l'hôpital et on me prend en charge 1h30, 2h après. et moi je souffre, je peux rien faire, je peux pas marcher, je peux rien faire. Donc on me prend en charge, on me fait des analyses, prise de sang, etc. Et on dit à ma mère que j'ai le diabète. Voilà, donc ça commence comme ça. Et ma maman, elle dit non, ben, c'est pas possible, refaites des analyses, etc. Donc on attend encore 1h30, 2h, et moi je continue à souffrir. Donc on m'a rien donné parce que j'avais pas le droit ni de boire, ni de manger. Donc je devais rester comme ça. Donc là, il est peut-être 4h du matin à peu près. Et moi, je souffre depuis 18h. J'ai rien pris. Et donc, on me fait un scanner, radiographie, rien du tout. On palpe, rien du tout. Et là, ma maman, elle continue, elle dit, mais non, mais c'est pas possible. Vous voyez pas qu'elle souffre, faites autre chose. Donc j'attends encore, et là, je refais une radio. Et là, pendant la radio, on voit en fait des bulles d'air dans mon ventre. En fait, ce que j'étais en train de faire, j'étais en train de faire une péritonite. Donc, désolée si ça choque certains d'entre vous, mais en gros, j'avais du pus dans le ventre. Et voilà. Donc là, c'est direction bloc opératoire. Et je pars me faire opérer. Donc, le médecin, il parle avec ma maman et il lui dit que, ben, en fait, si vous étiez arrivé un peu plus tard, votre fille ne serait clairement pas là. Donc, voilà. Et donc, on m'opère, etc. Et par la grâce de Dieu, tout se passe bien. Et je suis bien debout là, aujourd'hui, devant vous. Et donc, du coup, c'est vraiment pour vous dire que j'avais demandé à Dieu un signe. J'avais dit, montre-moi. Ben là, du coup, je l'ai vraiment eu, mon signe. Il était énorme. Et ben voilà, quoi. Juste pour vous dire que Dieu agit. Mon papa, il dit souvent, Dieu vient au secours de la faiblesse et non de la paresse. Et donc, voilà, Dieu m'a sauvée. J'ai eu mon signe. Et c'est vraiment ce qui m'a poussée à véritablement croire qu'il existe réellement et qu'il m'aime réellement et qu'il a un plan pour moi. Et pour tout un chacun.
Bon, j'ai beaucoup aimé le témoignage de Dominique, qui nous a parlé quand même de confiance. Et je crois que c'est quelque chose d'extrêmement essentiel dans la vie chrétienne. La confiance et la foi. Confiance parce que la vie parfois nous réserve de drôles de surprises. Le chemin qu'on emprunte n'est pas toujours celui qu'on voudrait. On traverse des moments difficiles, des épreuves, des difficultés. Et moi, personnellement, avec mon tempérament, je me dis, Seigneur, le chemin que tu me fais prendre ne me convient pas. Ce par quoi je passe, ça ne me plaît pas du tout. Mais je te fais confiance, malgré tout, parce que je sais que le chemin que tu traces pour tes enfants est toujours parfait, même si on ne comprend pas. Quand c'est difficile, quand c'est dur, quand c'est compliqué, on est humain. Et ce côté humain nous fait parfois un petit peu défaillir ou trembler. Mais Dieu nous demande de lui faire entièrement confiance et d'avoir foi en lui. Foi parce que on voit pas tout, on comprend pas, parfois même on ne sent pas sa présence. Ça arrive souvent d'ailleurs. Et Dieu nous demande de marcher par la foi dans ces moments-là. Je voudrais juste vous parler en fait de cette confiance en Dieu dans l'orientation professionnelle, particulièrement. Je sais que plusieurs ici s'attendent à Dieu pour trouver un emploi ou une direction dans leur vie professionnelle. Et parfois, les portes sont fermées, il se passe rien, les portes sont fermées, les fenêtres sont fermées, il y a des murs devant nous, on n'a aucune bonne réponse ou des situations, des solutions qui ne viennent pas. Enfin. Et Dieu nous demande d'être patient, d'avoir confiance en lui et de placer vraiment notre foi en lui. J'ai quitté l'école à l'âge de 12 ans environ, j'étais déscolarisé, donc j'ai un parcours scolaire désastreux. Néanmoins, Dieu m'a fait grâce. Le jour où je l'ai rencontré, alors que j'allais avoir 18 ans, Dieu m'a permis de prendre des chemins détournés pour reprendre un petit peu mes études. Et ça m'a permis de lui faire confiance par rapport et aux études et ensuite dans le monde du travail. Dieu m'a permis de toujours trouver du travail, j'ai jamais eu vraiment de difficultés. Ça ne veut pas dire que ça a été facile. Hein. Ça a été des semaines et des mois où, Seigneur, j'ai besoin de travail, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de payer mes factures et il n'y a rien qui vient. Mais ce qui est surprenant de la part du Seigneur, c'est qu'en fait, il nous met parfois sur des chemins auxquels on ne s'attendait pas. J'ai eu l'occasion en 2019 de revenir en fait depuis le Pays Basque, de venir ici à Toulouse. J'étais ambulancier, chauffeur de taxi à ce moment-là. Et ne sachant pas quoi faire, je suis venu pour m'occuper de ma maman. Et j'ai donc posé la question à Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Parce que j'ai vu la circulation à Toulouse, taxi, ambulancier, c'est juste pas possible, bien que j'ai essayé pendant quelques mois. Et Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et je suis allé au jeudi de l'AFPA pour faire une formation d'électricien. Enfin, je fais court hein, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. En fait, je suis allé à l'entrée de l'AFPA, je ne savais pas quoi faire. J'avais une idée, électricien, plombier, je dis, écoute Seigneur, donne-moi un signe. Et à ce moment-là, il y a un fourgon qui arrive. Et c'était un monsieur qui venait faire l'entretien, en fait, pour la chaudière de l'AFPA. Je savais même pas, je pensais que c'était un des formateurs. Et je lui dis, excusez-moi, monsieur, vous êtes formateur ici à l'AFPA? Il me dit, non, je viens juste faire de l'entretien à la chaudière. Je dis, écoutez, je peux vous poser une question, on se connaît pas, mais si vous aviez à choisir entre électricien et plombier, vous choisiriez quoi? Il me dit, électricien. Je vous la fais court. Bon, donc je choisis une formation d'électricien. Je fais une formation d'électricien. Par la grâce de Dieu, j'ai réussi le titre et je m'engage dans la vie active en tant qu'électricien. Métier un petit peu physique quand même, tendu. J'ai des petits problèmes de dos, des petits problèmes de genoux. Donc je me dis, Seigneur, il faut que tu m'ouvres une autre porte. Il faut que tu fasses quelque chose pour moi parce que je peux pas tenir des années comme ça. Je vieillis, ça se voit, hein, n'est-ce pas? Et puis donc, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Et en face de moi, en fait, je suis chez mes parents, et en face de moi, il y a une grue. Une grue, vous savez, une grue de travaux, là. Il y a une grue. Et je la vois, et je fais pas attention, je la vois, et tous les jours, et je la regarde. Ils sont en train de, j'habitais à Bagatelle avec ma maman à ce moment-là, ils étaient en train de construire la mosquée de Bagatelle. Et je me dis, mais pourquoi pas grutier? Et donc, je me voilà en train d'attaquer les démarches pour devenir grutier. Mais voilà, ça s'est fait comme ça. Je dis, Seigneur, si ça vient de toi, tu vas m'ouvrir la porte. Bon, le dossier s'est pas passé comme je voulais, il y a eu des complications, mais finalement, me voilà engagé dans une nouvelle formation à la fois, encore une fois, de grutier. Et curieusement, au fond de moi, c'était la première fois que je ressentais que jamais je monterais dans une grue en tant que professionnel. Donc, c'était assez particulier. Donc, me voilà en train de faire une formation de grutier qui a duré 3 mois. Donc, je montais dans une grue dans la formation. Je conduisais la grue. Ça se posait pas trop mal. J'ai fait une formation. J'ai fait un stage même chez une grosse entreprise de TP, donc Giro. Voilà. Mais au fond de moi, je sentais que c'était pas ça. Alors, je faisais quand même mes démarches. Parce que j'étais grutier, il fallait que je change de métier. Bon, j'étais un peu plus, moins difficile physiquement qu'électricien. Et puis, mais je sentais que ça serait pas ça. Alors, je fais mes démarches et rien ne se passe. Ça a duré quand même pendant un an, à peu près. Enfin, disons, il y a une période, entre le moment où j'ai fait ma formation grutier et après. Mais il y avait une chose qui était sûre, c'est que Seigneur, je veux te servir quand même. J'ai eu des périodes de chômage, hein, parce que je trouvais pas de travail. Donc, Seigneur, je veux te servir. Quoi que tu me demandes de faire, j'ai pas beaucoup de talent, mais bon, j'ai branché deux fils. Et voilà qu'il y a l'éclairage de l'église qui faut changer. Donc, me voilà parti pour faire avec Céline. On fait l'éclairage de l'église. Ensuite, on rencontre, il y a un pasteur que je connais depuis que je suis tout jeune, puisque je donnais mon cœur à Jésus à 18 ans. Je suis parti à la Gauterie, qui vient ici. Luc Goyot, que vous connaissez, de l'église de Colomiers, et il me dit qu'il fait une extension pour l'église, et je dis, écoute, moi je travaille pas en ce moment, si t'as besoin, je peux faire l'électricité, si tu veux, il oublie, et on se retrouve à Sainte-Agne, bien des mois après, pour une réunion régionale, des églises de Toulouse. On s'est retrouvé là-bas et salut, Luc, comment tu vas? Il me dit, oh, je suis embêté. Je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Je fais l'extension, je trouve pas d'électricien. Je dis, mais tu plaisantes, quoi. Il y a quelques mois en arrière, je te dis, je suis électricien. Il me dit, c'est pas vrai. L'amnésie. Je dis, écoute, il dit, ça m'arrange, je viens et tout. Donc, je vais à l'église, je fais le devis. Je lui dis, achète le matériel, je te fais l'électricité. Et pratiquement, j'étais sur la fin, donc j'étais au chômage, hein, Céline aussi, on avait pas beaucoup d'argent, pour dire les choses comme ça, mais on a décidé d'être fidèles dans la dîme, dans les offrandes, et on serre la ceinture, et Seigneur, on va être fidèles, on veut marcher dans tes voies. Je voudrais ajouter juste une chose, c'est que en fait, l'obéissance et la désobéissance ont deux résultats. Ça changera rien, Dieu reste Dieu, qu'on obéisse ou qu'on désobéisse, l'Éternel reste l'Éternel. Lui, ça change rien, il est immuable, il est parfait. Par contre, si on obéit au Seigneur, à ses commandements, à ses lois, ses directives, on s'attire la bénédiction. Si on désobéit, on s'attire aussi les fruits de ce qu'on en a semé. Et donc, on décide malgré tout d'obéir, c'est pas facile. Mais on serre les coudes et on serre la ceinture aussi un peu, mais on marche comme ça. Et puis, alors que j'étais sur la fin du chantier, J'ai le téléphone. Alors, j'ai oublié de vous dire, quand j'étais donc à la formation Grutier, je croisais mon formateur d'électricien. Il me dit, Jean-Philippe, ça te dirait pas d'être formateur à la fois? Je dis, écoute, moi, mon niveau, c'est bac à sable, hein, c'est pas bac plus 5, donc je vois pas trop ce que... mais écoute, qu'est-ce qu'il faut? Et je dis, donne-moi ton CV au cas où. Bon, je lui donne mon CV. Et donc, je reviens, donc c'est des mois après. Hein, je suis sur la fin du chantier, téléphone qui sonne, mon formateur me dit, Jean-Philippe, ça te dit pas d'être formateur? Je dis, bah, oui, mais je sais pas, il faut faire quoi? Je sais pas, lundi, présente-toi à 8h à l'AFPA. Ok. J'en parle à Dominique, je dis, Dominique, toi qui es chasseur de tête, là, comment on fait? Il me dit, attends, je vais te préparer pour l'entretien, fais ci, fais ça. C'était trop compliqué, ce qu'il me disait. Ça, c'est bon pour des gens qui ont un gros niveau d'études. J'écoute, moi, je vais y aller par la foi, comme d'habitude. Hein, Seigneur, si tu veux, tu béniras. Bon. Et parce que, voilà, c'est bien pour des gens qui ont un bon parcours. Enfin, je pense, hein, c'est mon opinion, tu me connais, Dominique, c'est comment je suis. Et vous me voilà, je lui dis, au fait, il faut que j'amène quoi? Il me dit, amène des chocolatines. Pas de CV, pas de papier, des chocolatines. Me voilà, donc, le lundi matin, à 8h, à l'AFPA, avec mes 4 chocolatines, le formateur, Lucien Nieto, est bienvenu. C'est le RF, hein, le référent de formateur. Et l'entretien qui commence, et puis je les vois discuter, ils mangent mes chocolatines, ils boivent le café. Moi, je suis là, les bras croisés. 5 minutes qui passent, à un moment donné, ils se taisent, et puis moi, je regarde le responsable, je lui dis, bah, écoutez, moi, j'ai juste une question à poser, c'est quelles sont les qualités que vous demandez pour être formateur? Il me regarde droit dans les yeux, il me dit, t'es disponible quand? Je dis, maintenant, ben, tu commences maintenant. C'était au mois d'avril l'année dernière, et par la grâce de Dieu, depuis le 2 janvier, donc j'ai travaillé en intérim jusqu'à présent en tant que formateur, j'ai aucune capacité, j'ai aucune qualité. Apparemment, ils en ont trouvé chez moi. Depuis le 2 janvier, non seulement ils m'ont accordé leur confiance, et depuis le 2 janvier, je suis en CDI.
Alors moi, j'écoutais un peu bien les témoignages de chacun, et j'en ai relevé des parties de chaque témoignage. Le premier témoignage, ce qui a été bien, c'est dormir avec des choses dans notre cœur encore qu'on ne doit pas garder. Le premier témoignage. Ensuite, le deuxième témoignage, Dieu vient au secours de la faiblesse de la personne. Le troisième témoignage, on est toujours à l'école de la formation de Dieu. Simplement, je veux vous apporter un témoignage simple. Au travers de ce décès, Dieu m'a fait réaliser, sommes-nous prêts de le rencontrer? Suis-je prête de le rencontrer? Et avant de commencer, je veux vous demander tous pardon, parce que Dieu me demande ce soir de vous demander pardon. Je vous demande humblement pardon si par mon comportement, mon attitude, mes paroles, ou même ne serait-ce qu'en pensée, parce que vous savez, les pensées arrivent tellement vite qu'on ne dit pas haut et fort. Et quand on retourne chez nous, eh bien, on est là avec ça. Moi, je ne veux pas tout ça. Je me suis dit, demain, quand ma petite cousine est décédée, tout ce long où je suis restée toute seule, Dieu me parlait ici. Es-tu prête à me rencontrer là maintenant? N'as-tu rien à dire à l'Église, au peuple? N'as-tu rien à dire à ta famille? J'ai pleuré. Tout ce que j'ai fait pendant l'internet où on parlait avec la famille, je n'ai jamais parlé une seule fois. Et pourtant, ma famille savent que je n'ai rien. Et là, je n'ai rien dit, je me suis tue. Et tout ce que je leur ai dit, c'est « je vous demande pardon ». Pardon parce que je ne sais pas demain ce qui peut nous arriver. Pardon parce que si je sors à la porte, si une voiture me prend, je ne sais pas. Si j'irai auprès de Dieu. Je vous demande pardon à vos églises aussi, parce que je veux que Dieu, demain ou ce soir, me prenne dans mon sommeil, et je sais que j'ai la paix dans mon cœur. Comme dit Dominique, on est à l'école de Dieu, on apprend encore. On apprendra tous les jours. Mais Dieu m'a appris au travers de ce deuil
une sœur m'a appelée, m'a dit que Dieu se glorifie au travers du faible. Et c'était dans ma faiblesse que je ne voyais pas où Dieu se glorifie. Je ne voyais pas que c'était à ce moment-là qu'il avait besoin de moi. Et je me suis relevée. Je suis venue chanter dimanche matin. Parce que c'est là où Dieu m'a fait comprendre que lorsque tu es faible, c'est alors que tu es fort. Et je remercie l'Église aussi en passant d'avoir prié pour moi et mon foyer parce qu'on en a vécu des choses fortes, difficiles. Et il m'a fait aussi apprendre que nous ne prions pas un Dieu mort, mais nous prions un Dieu vivant. Alors à celui qui traverse le deuil, comme je l'ai fait, à celui qui traverse des problèmes, des difficultés, ne serait-ce que dans l'Église ou avec qui, on est dans l'école de la formation de Dieu, on apprend, mais il faut toujours se demander pardon, il faut toujours accepter. Et aussi que l'humilité, c'est Dieu qui fait élever son enfant au travers de l'humilité. C'est difficile de se faire briser, mais il faut l'accepter. Et moi, quand Dieu me brise, j'accepte. Et je montre aux gens quand je suis triste, je ne fais pas d'air de faux semblant, parce que Dieu connaît l'état de notre cœur. Et si je n'ai pas fait d'air de faux semblant, j'étais triste, touchée et peinée, c'est parce que je veux guérir justement. Mais pour mieux avancer et mieux grandir et avancer avec Dieu, il faut accepter les situations. Et moi, la première, j'accepte chaque situation et j'en pleure, mais je sais que c'est pour mon bien et celui de mon foyer, mais aussi pour l'Église qui nous entoure. Mon témoignage ce soir, ça a été ça. C'est est-ce que je suis prête à rencontrer Dieu demain? Merci Seigneur pour tous ces témoignages, parce que ça a été ce qui a aidé pour confirmer encore mon témoignage que je devais donner. Suis-je prêt à rencontrer Dieu demain? Merci encore pour tout ce que vous faites. Merci encore au pasteur, son épouse. Merci à les membres de l'Église. Mon cœur, vraiment, j'ai passé du temps à dire, Seigneur, bénis chaque frère et soeur, parce que c'est une partie de l'Église. Et l'Église, c'est l'épouse. Et chaque membre, quand quelqu'un souffre, eh bien, tout le monde est là pour soutenir. Et c'est ce que je ressens auprès de vous. Et quand je suis revenue dimanche, je pleurais. Parce que c'est ce que j'avais besoin. Et c'est ce que j'ai ressenti. Et je vous remercie beaucoup. Soyez bénis.
Bonsoir à tous et à toutes. Alors, moi, je vais vous faire mon petit témoignage. C'est peut-être pas grand-chose pour moi, mais peut-être que ça va aider d'autres personnes. Voilà. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que je vais bientôt avoir 34 ans et que, en fait, j'ai commencé à fumer quand j'avais 14 ans. Donc, j'étais très jeune. Et depuis tout ce temps-là, je fumais, cigarettes, etc. Et j'ai essayé plusieurs fois d'arrêter de fumer, sans succès. Comme j'étais pas chrétienne, comme je suis devenue chrétienne aussi, j'ai essayé. Mais au début de ma vie chrétienne, en fait, je priais pas, j'allais pas à l'église, juste j'avais Dieu dans mon cœur, mais c'est tout. Et je suis venue dans cette église, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à venir au culte, aux réunions de prière, et j'ai commencé à vraiment vouloir arrêter de fumer il y a environ 6 mois. C'est-à-dire que j'avais vraiment la volonté, et je me disais vraiment, allez, ça y est, Carmen, l'année prochaine, ça va faire 20 ans que tu fumes, quand même, c'est grave, donc il faut vraiment que tu arrêtes là. Donc j'ai commencé à me motiver, à me dire, allez, dans ma tête, etc. Mais je savais que toute seule, j'y arriverais jamais parce que j'avais déjà essayé et que ça marchait pas. Donc du coup, j'ai commencé à prier tous les soirs pendant à peu près, on va dire, 6 mois. J'ai prié, je disais, Seigneur, s'il te plaît, j'y arriverai pas, aide-moi, j'arriverai pas à arrêter de fumer, aide-moi. Et en fin d'année 2023, j'ai commencé à essayer d'arrêter. Donc, j'étais à peu près à 1, 2, 3 cigarettes par jour. Mais j'avais toujours cette dépendance, en fait, de me dire il me fallait cette cigarette, au moins celle-là, et ça m'allait pas. Et donc, j'ai continué à prier, à demander à Dieu, s'il te plaît, aide-moi, je veux vraiment arrêter. Et en tout début d'année, je suis tombée super malade. Pendant une semaine, j'avais 42 fièvres, j'étais dans mon lit comme ça. Et en fait, Dieu m'a fait grâce et m'a fait arrêter de fumer à ce moment-là. Donc, il m'a fait passer par une épreuve très dure, c'est la maladie, mais pour une super bénédiction qui est l'arrêt de la cigarette et l'arrêt de la dépendance à la cigarette. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis plus dépendante de la cigarette et que je fume plus.